Nous allons reprendre nos travaux. Nous avons conçu la journée comme une sorte de jet qui va de bas en haut, puisque Yves Lancelot ce matin a parlé de la terre profonde d'abord, et non la terre profonde, et puis de la terre plus superficielle, plus élevée, puisqu'il est parti des entrailles du globe, voyage au centre de la terre, et puis ensuite vers l'atmosphère. J'enlève le bas, j'enlève le haut, hein, c'est ça. Et cet après-midi, Pierre Léna, astrophysicien, va nous parler de l'espace et des problèmes de l'univers. Et il va vous montrer que les choses sont et ne sont pas sur la Terre comme au ciel. Voilà. Pierre Léna, à toi la parole.
Voilà. Alors, l'espace, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On pourrait dire de l'espace, ce qu'on a dit de Los Angeles, c'est là où il n'y a pas de là. C'est qu'on dit « there isn't any there, there ». C'est le non-lieu, par excellence. C'est un milieu dans lequel il n'y a rien, comme le qualifiait Yves Lancelot ce matin, je cite. Et pourtant, vous allez voir, c'est plein, même trop plein. L'espace et l'homme, que c'est quand même l'homme qui nous rassemble ici, puisque l'espace, que diable allait-il faire dans cette galère? Quelle aventure l'a poussé, quel esprit d'aventure l'a poussé là-bas? En fait, l'espace, c'est aussi la fin des sphères. On a parlé de lithosphère, biosphère, noosphère. Il y a encore d'autres sphères dont on n'a pas parlé ce matin, donc on parlera peut-être un peu cet après-midi. On a parlé de noosphère, mais il y a toute cette sphère d'échange, de communication qu'on pourrait appeler la vidéosphère, comme dit Régis Debray. Moi, je préfère l'iconosphère parce qu'au moins les deux racines grecques se rassemblent, mais qui sont encore l'environnement proche de la Terre. Et puis au-delà, la sphère disparaît. Au fond, cette petite unité de la Terre, elle se dilue dans ce grand vide interplanétaire et puis intersidéral ensuite. Et c'est encore, on pourrait dire, le lieu où s'arrête la loi. On parlait de cette rivière, le Pecos, qui séparait l'Est de l'Ouest américain, et pas de loi au-delà du Pecos. De manière, est-ce que l'espace, c'est le lieu parfait, inappropriable et inapproprié, dans lequel l'humanité peut s'étendre à l'infini sans jamais rencontrer son semblable, et donc en faisant disparaître, rêve de certains, tous les conflits qu'elle a connus jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est un lieu qui nous est indifférent? Alors, la première image montrée ce matin, c'était justement la Terre vue de l'espace. Donc, l'espace est aussi le lieu d'où nous pouvons nous regarder, et d'où nous pouvons faire beaucoup de choses qui nous concernent finalement. Donc, dans l'exposé que je vous présente, il y a au fond une double démarche. Il y a l'espace pour aller ailleurs, et puis il y a l'espace pour se regarder soi-même et en tirer beaucoup de choses. Alors, ici, vous voyez, 6000 km, 6400 km, c'est le rayon de la Terre. Entre 10 et 100 km, c'est la petite couche de notre atmosphère, une des sphères. 500 km, c'est l'altitude à laquelle évoluent les satellites les plus bas, la navette spatiale par exemple, altitude où il reste d'ailleurs suffisamment d'atmosphère pour finir par freiner les satellites et les faire retomber sur le sol en général en se consumant. 36 000 km, donc on est déjà évidemment l'échelle de l'image est fausse, c'est l'échelle. C'est l'orbite géostationnaire, celle sur laquelle un satellite en tournant tourne exactement 24 heures, donc reste au-dessus du même point de la surface terrestre pendant toute sa rotation. Et donc, c'est l'orbite privilégiée des télécommunications. Et puis, à peine 10 fois plus loin, c'est la distance de la Lune, on l'a dit ce matin, la taille de la Terre. Et puis ensuite, on va trouver la distance au Soleil. Donc ici, oui, je dessinais les sphères sur le Soleil, mais les sphères sont ici. Hein? Excusez-moi. La distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres, une toute petite distance à l'échelle de la galaxie. Et ce voisinage, Jupiter, par exemple, 5 fois la distance Terre-Soleil. Jupiter est ici. 5 fois la distance. Pardon, Jupiter est perdu, moi. Mars, Jupiter est ici. Saturne. 5 fois la distance Terre-Soleil. C'est encore la banlieue proche. Et puis les dernières planètes connues, grandes planètes, Neptune et Pluton, la dernière. Et au-delà, une immense banlieue qui est peuplée d'objets plus petits de la taille de la Lune. On en connaît aujourd'hui une centaine. Il y en a plusieurs, il y en a vraisemblablement plusieurs centaines de milliers qui orbitent au-delà de l'orbite de Pluton jusqu'à ce réservoir très lointain qui est le réservoir des comètes qui viennent de temps en temps. On a eu deux très belles visiter notre banlieue de la Terre. Alors, tout a commencé par Icare, en fait. C'est le premier rêve de sortir de la Terre et qui finit mal, puisqu'il finit en se brûlant les ailes. Ce rêve a été cultivé tout au long de l'histoire de l'humanité. Vous le retrouverez chez Cyrano de Bergerac, qui rêvait de s'élever avec des fioles de rosée attachées à sa ceinture pour être aspiré par le soleil levant. Vous le retrouvez chez Fontenelle, naturellement, avec une réflexion plus philosophique sur la pluralité des mondes. Vous le retrouverez chez Jules Verne, et il se concrétise peu après Jules Verne chez l'ingénieur soviétique, enfin, russe à l'époque, Tsiolkovsky, hein, qui pose le premier les principes de la propulsion spatiale, et il va être accouché par la violence et la guerre. La naissance de l'espace, c'est la construction des fusées V1 et V2 par Hitler. Et c'est les équipes qui auront construit les fusées V1 et V2 dans les ateliers souterrains de Penmude, à quel prix de vie de déportés, qui vont être appropriées partiellement par les Soviétiques et par les Américains. Et l'un des plus célèbres, Werner von Braun, sera l'artisan de la conquête Apollo. Et pour citer un souvenir personnel, en 1950, j'étais au Sahara avec le lancement des premières fusées françaises, les Véroniques, et sur le pas de tir de Véronique, on parlait allemand. Donc l'espace est accouché dans la guerre et immédiatement après dans la compétition de la guerre froide entre 1957, lancement du premier Spoutnik, petit, tout petit satellite, ridicule à l'échelle d'aujourd'hui, et du premier homme dans l'espace, 2 ans plus tard seulement, 1959, Gagarine. Alors, par rapport aux chiffres qu'on citait ce matin, des enjeux de vie ou de mort sur notre planète, l'espace n'a coûté directement que 14, pardon, 15 vies humaines, ce qui est proprement incroyable. La mort de l'astronaute Komarov quand il est rentré sur la Terre, la mort de 3 astronautes d'une mission Apollo au sol, brûlés dans leur cabine, et la mort lors de l'accident Challenger de 11 personnes, dont une institutrice, en 1986. C'est dire que ce débat que nous avions ce matin sur le zéro défaut, la conquête spatiale, d'une certaine manière, l'exaspère à un point porté à une extrême limite que nous retrouverons tout à l'heure à propos de l'aventure martienne. Apollo, c'est-à-dire la décennie 1960, pari lancé par Kennedy, qui culmine en 1969, avant la fin de la décennie, comme il l'avait promis au peuple américain, marque un basculement très important, car l'espace naît dans la guerre, porté par les fusées intercontinentales qui rendent possibles toutes les technologies qui ont permis Apollo, en fait, bascule à ce moment-là vers un espace d'enjeu de puissance, mais pacifique. Et c'est probablement par hasard que c'est de la même année que date le traité de l'utilisation pacifique de l'espace qui régit encore aujourd'hui, établi à l'ONU, qui régit encore aujourd'hui l'appropriation pacifique des corps célestes. 1967, la signature du traité, et dans les 2 années qui suivent, les ratifications. Je vous le lis. Les États porteurs du traité, partie au traité, s'engage à ne mettre en orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes de toute autre manière dans l'espace extra-atmosphérique. Tous les États partis au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. C'est en fait le traité de l'Antarctique qui sert de modèle à ce traité qui va installer la loi internationale, c'est-à-dire une loi imparfaite certainement, mais propre à l'humanité tout entière et non pas à telle ou telle part de l'humanité dans le fonctionnement de l'espace, élargissant au fond ce qui avait été les approches successives du droit maritime, puis du droit de l'Antarctique. Alors au fond, demain matin, Yves Coppens présentera la racine de l'humanité et peut se demander quelles étaient, il nous le dira sûrement, je suis avec vous pour l'entendre, je le regrette, les pensées qui agitaient le cerveau de ces primitifs, se levant dans la savane et se disant quel espace allons-nous conquérir. Ils en avaient devant eux. Finalement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que le futur de l'humanité est dans l'espace ou est-ce qu'il est sur cette Terre avec toutes les questions qui ont été posées ce matin. Alors, je voudrais peut-être briser la question en trois morceaux et notre expérience est courte. Et 1957-59, on a à peine quatre décennies pour nous guider sur une extrapolation de ce que pourra être le siècle prochain dans son rapport à l'espace. Et on sait bien, toute l'histoire, en particulier l'histoire récente de l'informatique nous l'apprend, que l'extrapolation technologique a plus de 20 ans ou 25 ans est quelque chose que personne ne sait faire. On ne peut pas dire quelle sera la technologie, qu'est-ce qui sera porteur dans 25 ans. Donc, sur ces 40 années, peut-on extrapoler les directions dans lesquelles l'homme sera amené à utiliser l'espace? Probablement, c'est très difficile. Alors, je vais essayer donc d'être aussi factuel que possible sur le rapport à l'espace qui a été celui de cette période. Alors, je distinguerai trois parties qui sont, que je vais parcourir très vite avec vous, peut-être on s'arrêtera au milieu, qui sont l'espace exploration, l'espace connaissance, que je distinguerai de l'espace exploration, et l'espace utilisation. Et en fait, utilisation en retour vers la Terre. Alors, l'espace exploration. Il n'y a aucun doute que ce mouvement d'exploration a été la pulsion fondamentale, qui, au fond, sur laquelle s'est appuyée en particulier la déclaration de Kennedy. Là-dedans, on trouve beaucoup de choses, et j'en extrais quelques-unes à titre d'exemple. On trouve d'abord une extension de la problématique de ce matin. Dans ce qu'a dit Yves Lancelot, il a mis beaucoup l'accent sur le forçage, c'est-à-dire la Terre, objet isolé, est soumis à des forces. Certaines sont intérieures, à des apports d'énergie, et d'autres sont extérieures. Parmi les apports extérieurs, naturellement, le Soleil est tout à fait central. Donc, la connaissance du Soleil, et voilà une belle image obtenue par un satellite qui est encore en orbite en ce moment, dans les longueurs d'onde des rayons X, donc le Soleil n'a pas tout à fait l'aspect qu'on lui voit tous les matins, hein, mais elle met bien en évidence que le Soleil, en fait, est un objet extraordinairement actif, car tous ces phénomènes qu'on voit à sa surface se modifient de semaine en semaine, de mois en mois, et au rythme du cycle solaire qui est de 11 ans. Tout ceci interagit avec la Terre, interagit avec le climat. Pour se référer encore à l'exemple de ce matin, vous rappelez le Little Ice Age, le petit âge glaciaire. Eh bien, ce petit âge glaciaire a coïncidé, était-ce une cause, c'est à prouver, avec un minimum dans l'abondance des taches solaires qui reviennent tous les 11 ans. Pendant un siècle à peu près, eh bien, le nombre de taches solaires sur le Soleil a diminué fortement et il y a au moins une corrélation, sinon une cause avec ce phénomène. Au fond, ça nous amène à nous interroger sur quelque chose qui paraît de fait une évidence, c'est-à-dire que le Soleil, il est là tous les jours et il est stable. Et est-ce qu'à l'échelle humaine, à l'échelle de l'histoire, la prédiction des rapports entre le Soleil et la Terre est aussi évidente que cela? Au fond, je voyez le terme de météorologie de l'espace, c'est celui qu'on emploie aujourd'hui, pour s'interroger sur cet effet de forçage que le Soleil produit sur notre orbite. Voilà pour le Soleil. Maintenant, l'exploration planétaire. Ça a été évidemment la grande fête des années 70 à 90. Il y a eu la Lune avec le dépôt de sondes automatiques. Il y a eu l'exploration des planètes avec des robots qui ont été les photographier sous toutes les coutures, et cela continue aujourd'hui. Voilà une planète qui n'a pas encore été explorée de près. C'est la raison pour laquelle je montre sa photographie, parce que c'est la limite absolue de ce qu'on sait faire aujourd'hui depuis la Terre. Il s'agit de Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire. Et vous voyez ici la rotation de Neptune, une planète qui tourne sur elle-même. Et le début, ce sont les meilleures images qu'on ait aujourd'hui de la météorologie de Neptune, avec des nuages qui se forment et se déplacent ici. Vous voyez, ici, ils apparaissent dans la longueur d'onde de la lumière à laquelle on les observe. C'est une indication extrêmement fragile encore. Quelquefois, on a pu aller photographier les objets de près. Un objet particulièrement fascinant, il y en a tellement que c'est pas très difficile de choisir, c'est un satellite de Jupiter, un des quatre satellites de lune médicéenne, qu'on voit bien à la jumelle, qui est le satellite Io et qui comprend, dont la surface est couverte de volcans. Vous avez ici des cartes dans lesquelles on voit des points chauds à la surface d'Io. Et chacun est un volcan. Ces volcans ont tous été nommés. Et il y en a un qui a un très joli nom. Il s'appelle Kanekekilili. Il a reçu un nom hawaïen parce qu'il a été observé d'Hawaï. L'exploration robotique des planètes est en fait extraordinairement puissante. Et on pourrait penser que donne la voie de l'exploration du système solaire, il n'est pas utile peut-être d'envoyer des hommes. Je vais revenir sur la présence des hommes dans un instant. Voilà une autre mission qui est en route et qui renvoie à notre débat sur l'incertitude ce matin à contrario. C'est la mission Cassini qui est partie pour Saturne, les dates sont sur ce cliché, sa trajectoire, et qui arrivera le 1er juillet 2004 sur Saturne. Alors, précision du tir qui permet de donner la date et même l'heure de l'arrivée sur Saturne à une distance qui est de l'ordre de 1 milliard de kilomètres nous dit que quelquefois aussi la science a une capacité de prédiction absolument prodigieuse et de correction en cours de trajectoire. Ah ben ça se passe bien, ça se passe dans les temps parce qu'il ne peut rien se passer. Le seul accident possible, c'est la rencontre d'un astéroïde, mais les trajectoires des astéroïdes sont bien connues, et donc là aussi, la trajectoire peut être programmée.
Explique-nous là, le lancement. Ça part d'où ?
C'est un peu compliqué parce que ça part de la Terre, Launch, le 6 octobre 1997, et puis ensuite, on utilise ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire on utilise le fait qu'on peut rebondir sur le champ de gravitation d'une planète, par exemple de Vénus ici, et capitaliser sur le mouvement de la planète. On parle de fronde gravitationnelle pour prélever à la planète un petit peu de son énergie qui accélère le satellite. Vous voyez qu'ici, il y a un nouvel effet dû à la Terre, c'est-à-dire la trajectoire utilise en fait deux fois Vénus, pour chaque fois lui prendre un peu de vitesse, puis la Terre, de façon, et puis finalement Jupiter, sortir du puits gravitationnel qui nous tient, que nous sommes aussi prisonniers sur la Terre, et atteindre Saturne. Alors cette mission, je la développe un tout petit peu parce qu'elle montre la puissance de la robotique. Vous la voyez ici, alors ça c'est un dessin d'artiste pour le moment encore, vous la voyez ici franchir Saturne, on a remis les moteurs en marche pour ne pas tomber sur Saturne, et passer au-dessus du plan des anneaux de Saturne, survoler deux des satellites, encore des dessins d'artistes, mais basés d'après les connaissances, survolés Encelade, ici. Alors, ce sont des photographies qu'en 2005, vous aurez dans vos journaux, avec ici un geyser. Encelade est chauffé de l'intérieur. S'il y a de la glace, cette glace intérieure s'évapore. Et puis, on a un beau geyser, ici. Ou bien, survolé encore, Tétis, une autre lune de Saturne, on connaît l'existence de ces grandes failles, de falaises de glace, de tranchées profondes, 4 km de large, plus de 100 km de long. Et donc, on sait déjà beaucoup de choses sur ces objets. Et au passage, l'exploration planétaire a révélé des objets qui étaient inimaginés. Personne n'avait eu assez d'imagination pour imaginer ce que seraient les photographies et puis la connaissance scientifique plus approfondie de ces objets. Alors, finalement, cette sonde spatiale se dirige vers Titan, un satellite de Saturne particulièrement intéressant parce qu'il contient les conditions de vie, les conditions de physico-chimiques, plus exactement, que la Terre devait connaître dans son premier milliard d'années ou dans ses premiers 500 millions d'années. L'atmosphère est très brumeuse et très épaisse. Vous voyez qu'il y a toujours des nuages. On voit Saturne dans une espèce de brume. Et puis la sonde, qui est construite par l'Europe d'ailleurs, qui s'appelle la sonde Huygens, que vous voyez ici descendre au bout d'un parachute et se poser sur un océan qui est vraisemblablement un océan de méthane, comprenant des icebergs de méthane gelé. Voilà. Donc ça ne fait pas un endroit forcément très hospitalier. Et pour répondre à votre question, monsieur, la date est indiquée ici, ça se passera le 27 novembre 2004. Alors ça, c'est mieux que le octobre de ce matin. Exploration robotique, encore un très bel exemple d'exploration robotique avec la planète Mars. Mon Dieu, où est passé mon transparent? Pardon. Avec la planète Mars, vous voyez ici une belle image. Elle est prise par un orbiteur de Mars, donc Mars qui de la Terre n'a jamais de croissant, puisque c'est une planète extérieure au Soleil. Ici est vue depuis un satellite de Mars, donc vous voyez ici l'ombre. Et puis ici, cette immense faille qui s'appelle Valle Marinaris, et au nord de laquelle s'est posé le petit robot Pathfinder, dont chacun se souvient certainement. Et qui a gratté, respiré, fouillé, ausculté la surface de Mars pendant plusieurs mois et qui nous a en particulier transmis ces images du sol martien et de l'érosion martienne. Et alors, Mars, c'est finalement un objet qui pose beaucoup des problèmes de l'avenir de l'activité spatiale et du rapport de l'homme à l'espace, finalement. Premièrement, l'homme ou les robots. Faut-il envoyer sur Mars un homme ou peut-on se contenter de connaître la planète rouge avec des robots? Alors on peut dire pourquoi connaître la planète rouge? Qu'est-ce qui nous amène à le faire? Alors, derrière ça, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait dire. On peut répondre au degré le plus bas qui, au fond, traverse toute cette discussion sur l'espace, c'est pourquoi est-ce que l'homme sort de sa planète? Est-ce bien utile? Qu'allait-il faire dans cette galère? Peut-être la réponse tient simplement, on pourra en discuter, à la pulsion d'aventure, à quelque chose qui pousse l'homme au-delà de lui-même, où qu'il soit, la même pulsion finalement que celle qui animait les contemporains de Lucie. Deuxième idée forte, savoir si Mars a contenu, ou éventuellement, c'est peu probable, mais ce n'est pas impossible, contient encore des formes primitives de vie. Dans son premier milliard d'années, cette planète a été très semblable à la Terre. Sa masse est le dixième de la masse de la Terre, relative, elle est plus petite, mais elle a connu une histoire très semblable et Yves Lanson nous expliquerait beaucoup mieux que je ne saurais le faire les raisons pour lesquelles les deux planètes ont divergé. Une des raisons fondamentales étant que l'une a connu la tectonique des plaques et l'autre non. Quel est l'état de... Qu'est-ce qui a produit cette différence? Y a-t-il des restes fossiles de vie sur Mars? Nous savons aujourd'hui de façon certaine, en particulier grâce à ce petit robot, que Mars a connu une intense érosion fluviale. Il y a eu des fleuves à la surface de Mars, et de grands fleuves, et des galets qui ont roulé, qui sont formés. On ne sait pas très bien aujourd'hui, d'ailleurs, où est passée toute cette eau. Elle est en partie dans l'atmosphère et condensée au pôle. Pendant l'hiver martien, elle est vraisemblablement, pour l'essentiel, gelée dans le sous-sol martien, dans un permafrost analogue à celui dans lequel Yves Coppens trouve ses mammouths. Il n'y a peut-être pas de mammouths sur Mars, malheureusement. Donc, deuxième question importante pour l'humanité, la problématique de la vie ailleurs. C'est une problématique qu'on pourrait retrouver à bien des étages de la découverte. Et puis, une troisième problématique qui fait rêver certains beaucoup, c'est l'idée de la colonisation. Elle a été évoquée tout à l'heure. Est-ce que c'est un objectif pensable? Alors, certains, dont Carl Sagan, qui est mort il y a peu de temps, ont proposé l'idée de terraformage. C'est-à-dire, si les planètes sont inhospitalières, si par exemple la densité de l'atmosphère martienne est tout à fait insuffisante, le centième de la nôtre, pour respirer, on ne contient pas assez d'oxygène, qu'importe, on va enrichir cette atmosphère, la modifier. Utopie peut-être. Mais regardons ce que fait le dioxyde de carbone et le méthane sur la Terre. La croissance des courbes que nous voyons ce matin, qu'est-elle d'autre que du terraformage, subi et non pas choisi, mais néanmoins. Donc la problématique de terraformage d'une planète peu différente de la nôtre, même si les chiffres, les ordres de grandeur des volumes de gaz à mettre en jeu nous paraissent aujourd'hui fous, n'est pas forcément sur le plan strictement technique, et sans prononcer sur ce d'opportunité, complètement absurde. Derrière ça, il y a au fond un rêve que j'ai entendu encore il y a 2 jours dans un colloque sur l'avenir de la recherche spatiale, qui est cette idée, je vous la livre comme elle a été formulée, « Start all over again ». C'est la vieille idée des Founding Fathers débarquant du Mayflower sur les rives de Boston. On quitte cette vieille Europe pourrie et on va s'installer ailleurs, pour fonder des communautés qui fonctionneront sans toutes les pesanteurs et finalement les malheurs de la vieille Europe. Ce rêve de repartir à zéro, après un paradis terrestre qui a mal tourné, il est sans doute très présent dans l'esprit de certains. Alors, l'aventure martienne, dans plusieurs de ces aspects-là, peut se traiter avec des robots, et dans d'autres, et appel à l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit simplement de la conquête, de l'aventure ou de l'exploitation minière. Encore que les arguments qui ont pu être donnés sur l'exploitation minière de l'espace au début, il y a une vingtaine d'années, ont totalement disparu. Le dernier astronaute à avoir foulé le sol lunaire, Harrison, est un géologue de profession, et qui est rentré avec l'idée qu'il allait fonder un grand business sur l'exploitation d'un minerai assez particulier, c'est de l'hélium, c'est donc un gaz de l'hélium-3 sur la Lune, avec l'idée qu'en ramenant sur la Terre cet hélium-3, qui est extrêmement rare et difficile à obtenir sur la Terre, on allait pouvoir produire de l'énergie par fusion nucléaire à des coûts tout à fait avantageux. Je crains que pas fait la fortune qu'il espérait. Bon, donc cette perspective minière, elle a assez largement disparu. Alors, envoyer l'homme sur Mars, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien nécessaire? Est-ce possible? Technologiquement, on peut répondre qu'aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, la question qui se pose, elle rejoint des débats de ce matin, celui du risque zéro. Remarquez que plus on a la maîtrise technologique d'un problème, plus le risque non nul devient inacceptable. Les 10 000 malades d'intoxication alimentaire que tu citais, Michel, ce matin, étaient tolérés simplement parce qu'on ne savait pas faire autrement, comme on finit par tolérer les 100 000 ou 10 000 morts d'un tremblement de terre ou d'une éruption volcanique. En revanche, quand une communauté nationale, voire internationale, s'identifie à un programme technologique, que ce soit la chaîne du froid, que ce soit le contrôle du sang pour la transfusion ou a fortiori, ce qui est tellement visible, l'envoi d'un homme dans l'espace, alors la tolérance sur l'erreur devient nulle. Et qu'aujourd'hui, par exemple, la fiabilité des voyages aériens, à cause de cette même requête de tolérance, est essentiellement contrôlée par l'erreur humaine. Les accidents aériens aujourd'hui arrivent à cause d'erreurs humaines et non pas à cause d'erreurs techniques, pour 90% d'entre eux, sinon davantage. Cette frontière du risque, peut-on imaginer que l'on envoie, c'est très concret dans la mesure où les discussions sur les voyages vers Mars, par exemple, ont beaucoup porté sur le coût de l'opération, naturellement, et ce coût est facilement multiplié par 10 si vous voulez faire passer la probabilité de perte d'un équipage de 1%, qui est la sorte de valeur d'un lancement de la navette spatiale, à 1 pour 1000. Si vous voulez atteindre 1 pour 10 000, voire 1 pour 100 000, ce qui est le taux des voyages aériens, eh bien c'est impossible, parce que le coût à ce moment-là devient totalement vertigineux. Aucun État n'est disposé à participer à la hauteur de la centaine de milliards de dollars, au moins, que coûterait une mission martienne, pour que ça se termine avec l'astronaute perdu quelque part dans l'espace interplanétaire. Et là, on touche à la signification de ce risque zéro. Alors, qu'auraient été les grandes explorations du XVIIIe siècle avec le risque zéro? Elles n'auraient simplement pas eu lieu. Ni Cook, ni Bougainville n'auraient exploré le Pacifique. S'agit-il d'un respect profond de la vie humaine? S'agit-il d'une sorte d'idolâtrie de la technique dont, parce qu'elle est exclusivement sortie de nous, nous ne tolérons aucune faille? Je crois que la question reste posée. En tout cas, on est bien loin de Corneille. Hein, vous vous rappelez, mourir pour son pays est un si digne sort. On est bien loin. Alors, derrière cette question du voyage martien, qui est un peu devenue aujourd'hui exemplaire, la manière dont on la traite, se profilent beaucoup d'autres questions sur l'avenir de l'espace que je me contente de citer. Chacune mériterait un développement. Le tourisme spatial, qui aurait dit au début de l'aéronautique, il y a exactement un siècle, que l'avion deviendrait un moyen de déplacement aussi banal à la surface de la Terre. En sera-t-il de même pour l'espace? Avec les implications économiques que ça sous-tend. Ou, à contrario, est-ce que l'espace restera aussi inhospitalier, et c'est un lieu radicalement inhospitalier, c'est le vide, c'est le froid, c'est les radiations solaires, aussi inhospitalier que l'Antarctique aujourd'hui? Première question. Deuxième question, comment l'homme, en tant qu'espèce, peut-il vivre la séparation d'avec la Terre? Et que l'entraînement psychologique des équipages de cosmonautes est important, et dans cet entraînement, le contact avec la Terre joue un rôle absolument essentiel, dans les deux sens d'ailleurs. La possibilité d'un contact, c'est aussi la possibilité de le rompre. On raconte beaucoup que les relations entre les contrôleurs sol et les équipages de Mir, par exemple, ont souvent été orageuses, au point que l'équipage coupait la communication pour être tranquille pendant 24 heures. Panique au sol, vous imaginez. Mais en parlant avec des cosmonautes, certainement ce lien à la Terre est fondamental. Et on se demande, personne n'a la réponse, quel pourra être le résultat de cette double perte de contact avec la Terre que représente l'éloignement. La Terre, vue de Mars, n'est plus qu'un petit point brillant dans le ciel. Et la rupture temporelle, le temps de propagation de la lumière entre un point de l'orbite géostationnaire, 36 000 km, et la Terre, c'est quelques dixièmes de seconde. Vous l'entendez à peine dans la ligne téléphonique. En revanche, l'aller-retour d'une communication avec Mars, c'est 40 minutes environ. Ce qui veut dire que la simultanéité, qui est quand même notre expérience de communication fondamentale, dans l'espace disparaît. Et elle disparaît radicalement. La relativité interdit la simultanéité. Comment l'espèce humaine peut-elle vivre cette rupture? C'est une question. Et puis, derrière ces réflexions du voyage dans le système solaire, la problématique du voyage interstellaire, qui n'est pas une absurdité technique,